VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Crise burundaise, le Burundi s'opposera par la force aux troupes de l'Union africaine si l'organisation panafricaine met en œuvre son projet d'envoyer dans le pays une mission de maintien de la paix. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président burundais Pierre Nkurunziza. Lors d'une conférence de presse ouverte au public à Gitega, dans le centre du pays, le chef de l'État burundais a souligné que tout le monde doit respecter les frontières du Burundi. Si les troupes de l'Union africaine viennent, elles auront attaqué le pays et chaque Burundais devra se lever pour les combattre, a averti Pierre Nkurunziza. Rappelons que le dialogue inter-burundais a repris en Ouganda sous l'égide du président ougandais Yoweri Museveni, qui fait office de médiateur. Des délégations du gouvernement burundais, de l'opposition et de la société civile essaient de trouver une porte de sortie à la crise qui secoue le Burundi depuis des mois. On passe maintenant à la Centrafrique. En RCA, les Centrafricains votent depuis ce matin en présidentielle et législative. Une étape importante censée les sortir de 3 ans de violences intercommunautaires qui ont entraîné leur pays dans une crise sans précédent. Il y a eu des difficultés au début du vote. Le point avec notre envoyé spécial à Bangui, Tatiana Mosso, au micro de Jean-Roger Bion.
Vous l'avez dit, avec plusieurs difficultés, notamment au PK5, à l'école Koudoukou. Souvenez-vous, cette école avait été le théâtre d'échanges de tirs pendant le référendum. Eh bien, ce matin, et c'était des bureaux qui avaient été annulés, par exemple les bureaux 9 et 10, ou encore il y avait des problèmes avec la lettre M. Tous ceux qui étaient sur la liste d'électeurs et qui avaient leur nom de famille commençant par M n'ont pas pu se retrouver pour pouvoir voter. Autre problème, il manquait des listes d'électeurs et certains ont même été renvoyés pour aller voter dans le 8e arrondissement. Entendez par là qu'on invitait des musulmans à aller voter dans des quartiers qui sont encore à grande majorité sous le contrôle des anti-Balaka. Donc ça a créé des tensions à tel point que le général de la force Balakeita, le général de la MINUSMA, a dû intervenir.
Alors, difficulté donc à Bangui. Que sait-on de la situation dans le reste du pays, Tatiana ?
Alors, dans le reste du pays, les choses semblent bien se passer, notamment dans l'Est. On a encore très peu de précisions exactement, mais dans l'ensemble, dans l'Est, ça se passe bien. Dans le Nord, à Ndélé, notamment, les opérations ont pu commencer, mais évidemment avec beaucoup de retard. Un retard qui est lié principalement à l'acheminement du matériel. Dans le sud-est du pays, les retours de ce matin étaient encore positifs. Bien sûr, on pourra faire le point pour savoir exactement quelles ont été les difficultés confrontées en province.
Est-ce que on peut faire un bilan de ce qui s'est déroulé jusqu'à présent, maintenant ?
Alors écoutez, les quelques délégations d'observateurs que nous avons pu rencontrer en sillonnant la capitale, maintenant je me trouve dans le 8e arrondissement, après avoir été jusqu'à PK12, eh bien certains observateurs notent quand même ces grandes difficultés pour le moment à mettre en place les bureaux de vote, l'acheminement des bulletins, du matériel électoral qui a été quand même assez lent. Par exemple, dans le 8e arrondissement, ici à Don Bosco, on a commencé à voter au moins 3 heures, 4 heures de retard parfois dans certains bureaux.
Notre envoyé spécial à Bangui, Tatiana Mosso. L'autorité nationale des élections, l'ANE, dit avoir tenu compte de ces problèmes et tenté de les résoudre. Son président Julius Ngwadebaba exhorte les électeurs et les candidats à rester sereins. Le vote continue donc. Tatiana Mosso a tendu son micro à un électeur à Bangui.
Oui, c'est un droit aux citoyens d'avoir droit au vote. Raison pour laquelle on est venus nombreux pour voter massivement pour voir qui pourrait être le chef de notre pays.
Qu'est-ce que vous attendez de ces élections ?
Ce que nous préoccupe maintenant, c'est la sécurité et puis la paix. Lorsqu'il y a sécurité, il y a la paix et puis le pays va dans son sens normal.
Quel que soit le résultat de ces urnes, est-ce que vous avez des attentes particulières ?
Oui, notre attente, c'est de voir qui est le meilleur parmi les 30 candidats qui maintenant sont en concurrence entre eux.
Est-ce que vous pensez que le scrutin sera... est-ce que vous pensez que le scrutin sera crédible ?
Oui, bon, c'est peu crédible parce qu'il y a tant de gens qui sont déjà en mesure de voter et il y a d'autres dans d'autres centres qui n'est pas encore en mesure d'être vraiment en rail. Mais le Seigneur est là pour nous rassurer de tout ce que nous devons faire.
Un électeur centrafricain à Bangui. La mission des Nations Unies et ses casques bleus sont très impliqués dans ces élections. Le général Bala Keïta, commandant de la force onusienne, a même dû mettre la main à la pâte ce matin au PK5 pour débloquer la situation et permettre le vote de commencer. Le général Bala Keïta, au micro de Tatiana Mosso.
Pour le moment, ça va, bon, à part quelques petits problèmes administratifs là, qu'on est en train de régler rapidement, mais sinon, dans l'ensemble, je pense que l'ambiance est bon enfant. Bon, et puis, on espère que tout va se passer correctement. Hein, ça ne va pas être comme la fois passée. Nous, on a appris, la population a appris, les saboteurs aussi ont appris. Donc nous tous on a appris et puis aujourd'hui tout va se passer bien, Inch'Allah. On espère bien. Bon, mais il y a toujours quelques petits problèmes administratifs qu'il faut régler très rapidement. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis passé pour les aider justement à faire avec le commissaire pour faire les ajustements qu'il faut, qui est nécessaire.
Le général Bala Keïta, commandant de la force onusienne en RCA.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, l'Église catholique est inquiète d'une possible impasse autour du processus électoral. Elle a donc entamé hier des consultations pour faciliter le dialogue entre les acteurs politiques. Plus de détails avec Eddy Issango.
Une délégation des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a rencontré Aubin Minako, les présidents de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la coalition des partis qui soutiennent les présidents Joseph Kabila. Ils ont par la suite discuté avec des représentants de l'opposition. Les évêques insistent que toute discussion pour éviter les blocages du processus électoral s'efface dans la perspective du respect de la Constitution, a déclaré l'abbé Léonard Santédi, secrétaire général de la CENCO. Les mandats du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 s'achèvent fin décembre 2016 et la Constitution ne l'autorise pas à embriguer un autre. M. Kabila a convoqué un dialogue auquel l'opposition refuse de participer, les soupçonnant de vouloir se maintenir au pouvoir.
Au Burkina Faso, Rochmar Christian Kabore a prêté serment hier comme 9e président du pays, mettant ainsi fin au régime de transition qui a suivi la chute en octobre 2014 de l'ex-président Blaise Compaoré. Le nouveau président a invité tous les Burkinabés à un véritable changement de mentalité et de comportement pour réformer les institutions et moderniser l'administration pour plus de justice sociale, de démocratie et de liberté. Et puis à Madagascar, des élections sénatoriales se sont tenues hier dans le calme afin de restaurer enfin la chambre haute du Parlement qui avait été dissoute en 2009 après le coup d'État. Les 12 664 grands électeurs, maires et conseillers municipaux se sont rendus aux urnes pour élire 42 sénateurs. 21 autres sénateurs seront désignés directement par le chef de l'État. On passe à l'actualité hors d'Afrique. En Irak, après la reconquête de Ramadi, les autorités ont déployé des centaines de combattants sunnites dans la ville. Une stratégie qui devrait leur permettre de garder et gouverner cette localité où les musulmans sunnites sont majoritaires. Chérubin Dorsil.
Ce n'est que le début d'une opération qui s'annonce plutôt longue et difficile après la reprise de cette ville stratégique située à l'ouest de Bagdad. Le groupe État islamique a laissé derrière lui des centaines d'engins explosifs qu'il va falloir désamorcer. Et il faudra aussi convaincre la population, sévèrement réduite par la guerre, de ne pas céder à la tentation djihadiste. Le premier souci du gouvernement, c'est donc un retour éventuel de Daesh, qui occupait la capitale de la province d'Al-Anbar depuis mai dernier, avant d'en être chassé par les forces irakiennes et leurs alliés avec l'appui aérien des États-Unis. C'est dans cette perspective que 500 membres de tribus sunnites sont arrivés dans le nord de Ramadi pour contrôler les zones libérées, a indiqué le général Ismail Mahalawi, qui dirige les opérations dans la province. Ces combattants, indique l'AFP, font partie de la mobilisation populaire, une organisation paramilitaire placée sous le commandement du premier ministre Haider al-Abadi. Monsieur Abadi a visité Ramadi hier pour féliciter ses troupes, mais il est conscient du défi. Il faut combattre le confessionnalisme violent, la mauvaise gouvernance et la corruption qui ont permis l'implantation du groupe État islamique, a-t-il fait remarquer.
Et pour terminer ici aux États-Unis, à l'approche des fêtes du Nouvel An, le maire de New York se veut rassurant et affirme que toutes les mesures de sécurité ont été prises, notamment grâce à la nouvelle unité de lutte contre le terrorisme qui compte 500 agents. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.